حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى فصل في مولده صلى الله عليه وسلم. Donc là il met un chapitre sur la naissance du prophète. Où est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est né صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل بلا خلاف نعلمه بين أهل السيار. Donc il dit premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né Aam al-Fil, l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, c'est l'année où est arrivé cet événement qui est retracé dans sourate al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi al-Fil. Donc c'est l'année où, là il n'explique pas, donc il faut expliquer ce que c'est Aam al-Fil, où Abraha, donc le roi de l'Éthiopie, qu'on appelle en arabe al-Habasha, il est venu pour, il était chrétien, il est venu pour conquérir la Mecque, ou plutôt pour détruire la Kaaba. Parce que, à cause d'un incident, donc l'histoire elle dit que, en fait, il y aurait un arabe de l'époque, donc pas un musulman puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore né, qui aurait uriné dans une église là-bas, en Éthiopie, ou au Yémen. Donc pour, parce que le Yémen aussi, ils étaient à majorité chrétiens. Donc pour se venger, il a envoyé une armée. Et dans cette armée, ils étaient notamment menés par un ou plusieurs éléphants. Et quand ils sont arrivés, donc pas loin de la Kaaba, l'éléphant, il s'est assis, il ne voulait plus avancer. Et eux, ils ont continué, et Allah Azza wa Jal, il a envoyé, comme il a dit dans le Coran, wa arsala alayhim tayran ababil, yani kathira. Donc il leur a envoyé des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, c'est-à-dire ils couvraient le ciel, avec chacun dans son bec une pierre. Et ils ont, entre guillemets, bombardé, si on peut dire, cette armée de l'Habasha. Et ils sont tous morts. Faja'alahum ka'arsfin ma'koul. Ils se sont retrouvés comme de la paille, c'est-à-dire, c'était des cadavres. Ils ont été complètement détruits. Et cet événement, comme on l'a déjà dit à Camus, si on réfléchit bien, c'est un événement historiquement, on ne peut pas remettre en cause. Pourquoi on ne peut pas le remettre en cause? Parce que les Arabes, ils n'ont pas contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a lu Sourate al-Fil. C'est-à-dire, on sait que les Arabes de Quraysh, qui n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils cherchaient tout pour pouvoir le contredire. Et tout ce qu'ils disaient, ils cherchaient à contredire. Notamment, par exemple, on voit l'incident de l'Isra, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voyagé jusqu'à Jérusalem et ensuite jusqu'au 7e ciel, ils ne l'ont pas cru. Ils ont essayé de le faire passer pour un fou à cause de ça. Et voilà qu'il leur ramène une sourate qui dit qu'Allah Azza wa Jal, il a envoyé une armée d'oiseaux, donc c'est pas quelque chose d'ordinaire, pour bombarder de cailloux une armée complète, dans laquelle il y avait en plus un ou plusieurs éléphants. Donc yani, c'est quelque chose de grave. Et ça, c'était l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète il a reçu la prophétie, il avait 40 ans. Donc on va dire, c'est que cette sourate elle est descendue à la Mecque. Donc entre 40 et 50 ans, voilà qu'il leur raconte qu'il y a 40 ans, Allah il a envoyé une armée d'oiseaux. Ça s'est passé où? À la Mecque. Donc est-ce que, moi par exemple ici à Tourcoing, est-ce que je peux venir aux gens et dire, il y a 40 ans à Tourcoing, il s'est passé un truc incroyable, tout le monde il l'a vu, et je mens? C'est impossible. Parce qu'il y a des gens parmi nous, ils ont 50 ans, d'autres ils ont 60 ans, d'autres ils ont 70 ans, et d'autres peut-être sont encore plus vieux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Woody, on était là, on n'a pas vu ce que tu dis. Tu dis n'importe quoi, nous on était là, on n'a pas témoigné de ce que tu racontes. Donc si c'était la même chose pour l'histoire de l'éléphant, les Arabes ils seraient dépêchés de dire entre eux et de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde Adha, Mejnoun, ils racontent qu'il y a 40 ans et nous on les a pas vus cette histoire. S'ils ont rien dit, c'est parce qu'ils savaient que c'était vrai. Et parce que tu peux pas mentir comme ça à 1000 personnes sur quelque chose qu'ils ont vécu et que leur père ils ont vécu, c'est impossible. Donc s'ils ont rien dit, c'est que c'était vrai. Donc c'est ça Aam al-Fil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans divergence entre les gens de science et les historiens, il est né cette année-là, l'année de l'éléphant. Donc déjà c'était comme un signe de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il soit né dans une année comme ça. Wa wiladatuhu kanat yawm al-ithnayn jazman liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه أخرجه مسلم من حديث قتادة رضي الله عنه. Autre chose dans sa naissance, c'est qu'il est sûr qu'il est né un lundi, comme il est rapporté dans Sahih Muslim qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam à propos du jour du lundi, parce qu'il jeûnait le lundi. Donc quand on lui a demandé pourquoi, il a dit c'est le jour où je suis né et c'est le jour où j'ai été envoyé, c'est-à-dire c'est là qu'il a reçu la révélation pour la première fois. Ou alors il a dit c'est là qu'on m'a descendu la révélation, c'est-à-dire pour la première fois c'était un lundi. أما شهر الولادة وتاريخها فقد اختلف فيه. يعني اليوم معروف هو يوم الاثنين. أما الشهر والتاريخ يعني بعينه هذا فيه خلاف بين أهل السير والمؤرخين. فقيل في 12 من شهر ربيع الأول، وقيل بل في 8 منه، في 8 منه، وقيل بل ولد في رمضان، وقيل ولد في 27، في 27 من رجب، وهو أغربها. Donc il y a plusieurs paroles chez les historiens. Il y en a, ils disent qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal, du mois de Rabi' al-Awwal. D'autres, ils ont dit c'est le 8 de Rabi' al-Awwal. D'autres, ils ont dit il est né pendant Ramadan. Et une autre parole qui est la moins, qui est la plus éloignée de la vérité, si on peut dire, il a dit c'est la plus étrange dans ces paroles-là, c'est qu'il est né le 27 du mois de Rajab. Ça, c'est la moins proche de la vérité. فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم. Ensuite, il a mis un chapitre pour expliquer comment il a été envoyé en tant que prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa uhiya ilayhi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ibn 40. Yani sinnuhu 40 sana. Wa kana awwal bad'u al-wahy annahu kana yatahannathu fi ghar Hira wa fi marratin min al-marrat ataahu Jibril alayhi salam fa ghattahu ghattatan thumma arsalahu fa qala iqra al-hadith. Fa kana hadha mabda'u amrihi. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, quand il a reçu la révélation, sallallahu alayhi wa sallam, il avait 40 ans. Et c'est la première fois qu'il a reçu la révélation, alors qu'il faisait des ibadat, c'est-à-dire il adorait Allah subhanahu wa ta'ala dans une grotte, qu'on appelle la grotte de Hira. Donc, et une fois qu'il est parti, donc ça c'est avant qu'il reçoive la révélation, il adorait déjà Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois qu'il est allé dans cette grotte, c'est là que Jibril il est venu et qu'il lui a transmis la révélation en lui disant premièrement iqra, c'est-à-dire récite ou lis. An Aisha, maintenant il va ramener le hadith complet. An Aisha ta umm al-mu'minin radiyallahu anha annaha qalat awwal ma budi'a bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-wahy ar-ru'yatu as-salihatu fi an-nawm fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh, yani illa ja'at wadiha wa tahaqqaqat. ثم حبب إليه الخلاء. ما معنى حبب إليه الخلاء؟ يعني كان يحب أن يتخلى عن الناس، يبعد عن الناس، يبقى وحده. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. يتحنث يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى. بماذا كان يتعبد؟ وكما قال سبحانه وتعالى لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف ما هو الإيمان وهو القرآن قبل أن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. فقيل يعني كان يتعبد بما يبقى من أثر دين إبراهيم كالسجود والدعاء وغير ذلك. كان يتعبد أو يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله أو قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزود لذلك يعني يأخذ الزد ليذهب إلى هذا الغار ثم يرجع إلى خديجة يعني زوجها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتاد هذا الغار يذهب إليه يبقى أيام وليالي متعددة ثم يرجع إلى خديجة ويستعد مرة أخرى فيرجع إلى غار حراء حتى جاءه الملك. فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقاري، يعني ما أعرف القراءة. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضيق عليه أخذه حتى بلغ مني الجهد يعني حتى أتعبني جدا وكدت أن أموت ثم أرسلني يعني تركني أطلقني فقال قرأ قلت ما أنا بقاري يعني المرة الثانية فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقاري فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يعني خائف فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني يعني غطوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم يعني انظروا كيف خديجة رضي الله عنها فهمت أن هذه الواقعة ليست شرا على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لما تعرفه من أخلاقه الطيبة يعني ما دام ذا خلق حسن فالذي حصل ليس يعني ليس شرا ولا ضررا على النبي بل هي استبشرت بهذا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هكذا كانت أخلاقه قبل أن يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة يعني خديجة رضي الله عنها أخذت النبي صلى الله عليه وسلم فساقته إلى ابن عمها وهو ورقة ابن نوفل وكان امرأ قد تنصر يعني اتبع النصرانية يعني الدين عيسى عليه الصلاة والسلام في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني العبراني هو اللغة اللغة يعني في فلسطين فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي يعني كان أعمى فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يعني هذا هو الملك نفس الملك الذي جاء إلى موسى لأن هذا الرجل كان يعرف الكتاب أو ما يبقى من الإنجيل والتوراة فكان يعرف أن الوحي تأتي بواسطة من؟ بواسطة الملك وهو جبريل عليه الصلاة عليه السلام يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك يعني يتمنى أن يكون موجودا حين يخرجه العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم يعني أهم سوف يخرجونني من مكة قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي يعني إلا كان له أعداء من قومه وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي أخرجه البخاري يعني بعد ذلك بقليل توفي ورقة Donc là, il ramène le hadith complet sur l'histoire du début de la révélation. Donc il dit que Aïcha, radiallahu anha, elle raconte, ça c'est dans Sahih al-Bukhari, elle a dit, la première fois qu'a commencé la révélation au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était des visions que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyait la nuit. C'est-à-dire, il voyait des rêves et elle se révélait comme l'aube le matin. C'est-à-dire, elle venait à chaque fois comme il l'avait vu dans le rêve. Il faisait des rêves prémonitoires. Ensuite, il a commencé à aimer l'isolement. Et il s'isolait dans la grotte de Hira. Et il y pratiquait les adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Jusqu'à ce qu'il revienne à sa famille. Et il reprenait des provisions et il repartait dans la grotte de Hira. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, il a aimé s'isoler. Et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala dans une grotte. Et il restait plusieurs jours et plusieurs nuits, tout seul. Et quand il avait plus de provisions, il revenait à sa famille, il reprenait des provisions et il repartait. Certains savants, ils posent la question, comment il faisait des ibadat alors que l'islam, il n'a pas encore été révélé. Donc comment il fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Donc la réponse, wallahu a'lam, c'est qu'il adorait Allah selon ce que les Arabes y savaient à l'époque des restes de la religion de Ibrahim, comme le fait de se prosterner, le fait de s'incliner pour Allah, le fait de faire des doigts. Ça, les Arabes, ils le connaissaient, parce que ça restait encore de la religion de Ibrahim alayhi salat wa salam. Donc, et une fois, alors qu'il était dans la grotte, l'ange lui est venu, donc Jibril, et il lui a dit, récite. Et il a répondu, je ne récite pas, c'est-à-dire je ne sais pas réciter. Alors l'ange, il l'a pris et il l'a serré, à tel point qu'il a cru qu'il allait mourir. Et il l'a épuisé. Ensuite, il l'a relâché et il lui a dit, récite. Donc il a répété, je ne sais pas réciter. Il l'a repris encore une deuxième fois. Ensuite, il l'a relâché, il lui a dit, récite, une troisième fois. Il lui a dit, je ne sais pas réciter. Il l'a repris encore, il l'a serré, et il l'a relâché, et là, il lui a dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est-à-dire, récite au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une alaq, d'un morceau, d'un bout de sang. Donc, c'est-à-dire, c'est les premiers versets qui ont été révélés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, après cet incident, il est revenu à sa famille, et il avait le cœur troublé, c'est-à-dire il était troublé et craintif de ce qui venait de lui arriver. Et quand il est rentré chez sa femme, donc qui était Khadija, la fille de Khuwaylid, radiallahu anha, il a dit, couvrez-moi, couvrez-moi. Donc c'est-à-dire, comme il frissonnait de peur, il a demandé qu'on le couvre. Ils l'ont couvert et quand il s'est calmé, il a raconté à Khadija ce qui s'est passé. Et il lui a dit, j'ai eu peur de mourir, j'ai cru que j'allais mourir. Et Khadija, là, elle lui a dit, radiallahu anha, elle lui a dit, jamais. Elle a dit, Allah, jamais il va te laisser ou il va t'humilier. C'est-à-dire, elle a compris que ce qui venait d'arriver, ça ne pouvait pas être un mal. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit, toi, tu aides tahmilul kal, c'est-à-dire, tu aides les gens dans leurs tâches, dans leurs travaux. Wa taksibul ma'doum, et tu donnes à celui qui n'a pas. Wa taqrid daif, et tu honores tes invités. Et tu aides, wa tu'inu ala nawa'ibil haq. Et tu aides pour la vérité, c'est-à-dire il aide les gens qui ont subi une injustice. Il était toujours du côté de ceux qui sont des opprimés. Il n'était jamais du côté de ceux qui font l'injustice aux autres. Et ça, c'est avant que lui vienne la révélation, sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça son comportement. Donc comme il était ainsi, Khadija, elle a compris que ça pouvait être qu'un bien qu'Allah lui a fait. Après, elle l'a emmené chez son cousin, donc le cousin de Khadija, qui s'appelait Waraqa ibn Nawfal, et qui était un homme donc qui avait suivi la religion d'Aïssa avant que l'islam ne vienne. Et il savait écrire le livre en araméen, dans la langue ibrani, donc la langue des gens de Palestine, et qui serait, Allah alem, la langue de l'Injil. Donc il connaissait le livre dans cette langue-là. Donc, c'est-à-dire qu'il connaissait la religion et il connaissait les restes de l'Injil. Donc il savait des choses sur la prophétie, sur Allah, etc. Donc, et c'était un vieil homme qui était devenu aveugle. Et quand Khadija lui a ramené Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a raconté, il lui a dit, cousin, il lui a dit, Yabna Am, c'est-à-dire, oh mon cousin, c'est-à-dire, parce qu'en fait c'est le cousin de sa femme, c'est le mari de sa femme, et sa femme c'est son cousin, sa cousine, pardon. Il lui a dit, mon cousin, raconte-moi ce qui s'est passé. Et quand il lui a raconté, il lui a dit, ça c'est l'esprit, ou c'est l'ange qui est venu sur Moussa. C'est-à-dire, il a reconnu comment il lui a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, et comment il lui a fait. Il a connu que c'est la même chose qui est arrivée à Moussa, alayhi salat wa salam. Et il lui a dit ensuite, si seulement je pouvais être avec toi, et si seulement je pouvais être vivant, quand ton peuple va t'expulser. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce qu'ils vont m'expulser? C'est-à-dire, il s'étonne que cet homme, d'un coup, il lui dit, ton peuple, ils vont t'expulser, à cause de ce qui vient d'arriver. Pourquoi? Parce qu'il a su, soit par rapport aux écritures, ou soit comme il a dit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce qu'ils vont m'expulser? Et il a dit, personne n'est venu à son peuple avec ce avec quoi tu vas venir, sans qu'il l'expulse. C'est-à-dire, tous ceux qui t'ont précédé, ils se sont fait expulser, c'est-à-dire les prophètes. Leur peuple, ils ne les ont pas accueillis, ils les ont combattus. Donc toi aussi, ils vont t'expulser. Et il a dit, et si ce jour-là pouvait venir et que j'étais là, je te secourrais d'un grand secours. Mais quelques jours après, il est mort. Donc Waraqa ibn Nawfal. Et ça, c'est dans Sahih al-Bukhari, dans le tout début de Sahih al-Bukhari. Faslun fi wafatihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, hein, même là, on trouve aussi, donc ça, on rajoute toujours par rapport à la da'wa aux non-musulmans. Parce que dans tout ça, il y a des leçons. C'est pour qu'une personne elle se convertisse à l'islam. Si c'était un faux prophète, il ne raconterait pas l'histoire comme ça. Il ne va pas raconter que l'ange il est venu, il l'a serré, ensuite il l'a jeté, etc. Il va dire l'ange il est venu, il m'a lavé les pieds. Il ne va pas dire l'ange est venu, il m'a pris, il m'a serré, je croyais que j'allais mourir. Si c'est un dajjal, un gourou, un faux prophète, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire l'ange est venu, il s'est prosterné devant moi, il m'a lavé les pieds. Et il m'a dit que j'étais le meilleur. C'est ça qu'il va dire. Lui il dit, il m'a pris, il m'a serré, il m'a jeté trois fois. Il m'a fatigué à tel point que j'ai cru que j'allais mourir. Et après il va pas aller voir un vieillard pour confirmer, pour demander ce qui s'est passé. Il va dire attends qu'il meure, comme ça lui il va pas me faire fadiha. Lui il sait, ça va pas, il faut que je le tue ou il faut que j'attende qu'il meure. Hein? Il va le garder pour lui, il n'a pas besoin que quelqu'un il lui confirme. Faslun fi wafatihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite un chapitre sur sa mort sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. يعني هذه الآية تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. Donc premièrement, il a cité un verset où Allah a dit au prophète صلى الله عليه وسلم tu vas mourir et ils vont mourir. Donc ça affirme que le prophète صلى الله عليه وسلم est bel et bien mort. ويقول سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Et l'autre verset ici dit Mohammed n'est qu'un messager et d'autres messagers sont passés avant lui. Si il mourait ou il était tué, est-ce que vous allez vous retourner sur vos pas? C'est-à-dire que votre foi elle ne dépend pas du fait que Mohammed soit vivant ou mort. Vous devez croire même s'il venait à disparaître sallallahu alayhi wa sallam. ويقول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Et dans un autre verset, Allah a dit « Nous n'avons pas donné à un être humain avant toi l'éternité. Alors si toi tu meurs, est-ce qu'eux vont être éternels » C'est-à-dire certes, si toi... Donc ça affirme premièrement que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, doit mourir. وَقَدْ مَاتَ sallallahu alayhi wa sallam بَعْدَ أَنْ أَدَّ الْأَمَانَةِ وَبَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ الْجِهَادِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ شَاهِدًا لَهُ صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فقد نزلت آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et donc il dit le cheikh hafidhahullah ta'ala, le prophète صلى الله عليه وسلم quand il est mort, il a transmis tout ce qu'il devait transmettre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un verset qui est venu attester ça, qui est descendu à la fin de sa vie, qui est dans surat al-Ma'ida. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, c'est-à-dire qu'elle est complète. Si elle est complète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète a bel et bien tout transmis. أو يقولون رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بكذا وكذا, يعني من الأشياء الجديدة, أذكار جديدة أو عبادة جديدة, هذا لا يمكن ما دام الدين كامل. يعني لو كان هذا صحيحا, هذا يعني أن الدين ليس بكامل, يحتاج إلى أن نجبره, يعني فيه نقص, وهذا ليس بصحيح بشهادة هذه الآية. Donc si on comprend bien ce verset, ce verset, il faut bien le comprendre. Quand on dit que la religion elle est complète, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin qu'on rajoute quelque chose. Il n'y a pas un manque qu'on doit compenser. Donc là, tu te feras pas, si tu comprends bien ça, tu ne te feras pas avoir par les gourous qui disent aux gens, j'ai vu en rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit qu'il fallait faire telle et telle chose. Des choses qu'avant on ne faisait pas. Ou j'ai vu en rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a donné par exemple telle dua, on va pas citer parce que telle dua par lesquelles ils sont éprouvés les gens en Afrique, et en Afrique de l'Ouest. Et tel dua, et si on la lit, ça vaut à je ne sais plus combien de fois la lecture du Coran. Subhanallah. Donc Abu Bakr et Omar, donc si on comprend bien, c'était des masakines alors, par rapport à toi, puisqu'ils ne connaissaient pas ce que tu connais, mashallah. Al-Hada Ma'koul. Est-ce que c'est possible ça? Alors qu'Allah, il dit la religion, elle est complète, il n'y a pas besoin de rajouter. Ou alors il faut faire telle et telle façon, telle et telle ibada, telle et telle dhikr. Donc ça veut dire, si on comprend bien ce genre de discours, ça veut dire que la religion, elle n'est pas complète. Il fallait rajouter. Donc ça contredit ce verset. وقد نعى الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجله حين أنزل الله عليه سورة النصر ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر يعني الصحابة الذين حضروا غزوة بدر وابن عباس كان صغير السن يعني بالنسبة له فكأن بعضهم وجد في نفسه يعني كأن بعضهم كره أني يعني وأنا صغير معهم في المجلس وهم يعني الشيخ بدر يعني الصحابة الكبار فقال عمر فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله يعني بعض الصحابة الكبار قالوا يعني لماذا تدخل هذا الولد معنا في المجلس أنا كذلك عندي أبناء مثله يعني لا يصلح أن يكون معنا وهو صغير ولنا أبناء صغار مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح يعني عمر أراد أن يمتحنهم ويريهم فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال لهم ماذا تقولون في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا يعني هذا ظاهر الآية وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس يعني ثم التفت إلى عبد الله فاستفسره عن هذه الآية فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له يعني هو يعني هذه الآية تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يموت قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني عبد الله بن عباس فهم وعلم أن معنى هذه الآية أن النبي سيموت صلى الله عليه وسلم لأن الله قال إذا جاء نصر الله والفتح ونصر الله والفتح جاء فسبح بحمد ربك واستغفر وإذا نظرنا الذكر والاستغفار دائما يأتي بعد العبادات فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أو فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إلى آخره إذن فهم أن الرسالة تمت لا يعني تمت وانتهت فالآن النبي صلى الله عليه وسلم صار في نهاية الرسالة فأمر بالاستغفار فهم هذا عبد الله بن عباس وهذا من فقهه رضي الله عنه. Donc ici, il a ramené un hadith comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait mourir. Donc l'histoire allait dans Sahih al-Bukhari. Il lui a annoncé dans la sourate An-Nasr. Iza ja'a nasrullahi wal-fath. C'est-à-dire quand le secours d'Allah viendra, wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, et que tu verras les gens rentrer en masse dans la religion d'Allah, فسبح بحمد ربك واستغفره. Alors, purifie la louange de ton Seigneur, ou purifie Allah par sa louange, et demande-lui pardon. Donc c'est dans cette sourate. On va voir quel rapport entre la sourate et l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là c'est un hadith dans Sahih al-Bukhari qui est raconté par Abdullah ibn Abbas, donc le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était jeune encore quand le prophète est mort. Donc il raconte que Omar, donc ça c'est à l'époque de Omar, il dit Omar, il se réunissait toujours avec les mashaykh, c'est-à-dire les grands sahaba, et notamment ceux qui avaient assisté à la bataille de Badr. Donc s'ils ont assisté à la bataille de Badr, ça veut dire qu'ils font partie pas forcément des plus anciens musulmans, parce qu'avant eux, le muhajirin, mais en tout cas, ceux qui sont convertis au moins dès le début de la hijra. C'est-à-dire pas dans les dernières années, pas dans ceux qui se sont convertis à la Mecque ou à Hunayn, etc. Mais bien avant. Et que ce sont des vieux et des grands sahaba. Et Omar, il faisait toujours venir Abdullah et il s'assoit avec eux. Alors que lui, par rapport à eux, c'était un jeune. Donc un jour, un des sahaba, il n'a pas aimé ça et il a dit à Omar, pourquoi tu fais rentrer celui-là avec nous alors que on a des enfants de son âge? C'est-à-dire, il est trop jeune pour s'asseoir avec nous. Donc un jour, Omar, il a fait appeler Abdullah et Abdullah, il a dit, quand il m'a appelé ce jour-là, j'ai su qu'il m'a appelé pour leur montrer qui j'étais, pour leur montrer quelque chose à mon sujet. Et il s'est tourné vers les sahaba, donc les grands sahaba, il leur a dit, qu'est-ce que vous dites à propos de la parole d'Allah, idha ja'a nasrullahi wal fath? Donc certains, ils ont dit, ça veut dire que quand Allah il nous donne le secours, on doit le glorifier et on doit lui demander pardon. C'est-à-dire le verset, c'est ça qu'il dit. Et d'autres, ils se sont tués, ils n'ont rien dit. Après, Omar, il s'est tourné vers Abdullah, il lui a dit, est-ce que c'est ça le tafsir, est-ce que c'est ça la signification de ce verset? Et il a dit non. Il a dit, alors c'est quoi? Et il a dit, en fait, c'est Allah Azza wa Jal qui a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait mourir. Quand il lui a dit, quand le secours d'Allah viendra, c'est-à-dire ça, c'est la fin de ta vie. Or, le secours d'Allah est déjà venu. Donc, regardez, Ibn Abbas, il a compris. Et surtout qu'après, Allah dit, donc de glorifier Allah et de lui demander pardon. Or, la demande de pardon, c'est toujours à la fin des actes. Comme quand Allah il dit, après la salat Jumu'ah, répandez-vous sur terre et mentionnez beaucoup Allah. Quand vous avez fini vos rites, c'est-à-dire pendant le Hajj, alors mentionnez Allah, plus que vous le faites pour vos pères, plus que vous mentionnez vos pères. Quand il parle de la salat dans le Coran, il dit, quand vous avez fini la salat, alors mentionnez Allah, debout, assis ou couché. Donc il a compris que si Allah lui demande de façon générale de demander pardon, c'est qu'il a fini la plus grande œuvre, c'est-à-dire ça, la transmission du message. Et à la fin, Omar, il a dit, quand il a fini son explication, il a dit, je ne lui connais pas d'autre explication que celle que tu viens de dire. C'est-à-dire, Omar, lui, en fait, il savait l'explication de cette sourate et il a confirmé ce qu'Abdullah ibn Abbas a dit. وَقِيلَ وَفَاتُهُ صلى الله عليه وسلم وقبيل وفاته صلى الله عليه وسلم خير بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر خير يعني الله خيره أعطاه الخيار بين زهرة الحياة الدنيا يعني أن يبقى ويتناعم من هذه الدنيا أو ما عند الله سبحانه وتعالى والمعنى الموت فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له يعني الصحابة الآخرون تعجبوا من قول أبي بكر ما فهموا لماذا يبكي ولماذا يقول هذا الكلام وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يعني ما فهموا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير يعني في الأول ما فهموا أن العبد المذكور هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وكان أبو بكر هو أعلمنا به يعني أبو بكر أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم والوحيد منهم الذي فهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر illa khullatal islam. La yabqayanna fil masjidi khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakr. Muttafaqun alayh. Donc là maintenant il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, on lui a donné le choix. C'est-à-dire Allah azza wa jalla lui a donné le choix entre la vie d'ici-bas et les délices de la vie d'ici-bas, c'est-à-dire d'y rester, et ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a choisi ce qui est auprès d'Allah. Donc Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, il raconte que une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis sur le minbar et il a dit: on a donné le choix à un serviteur d'Allah. Il a dit un serviteur, c'est-à-dire il n'a pas dit qui, entre la vie d'ici-bas et qu'il en prenne ce qu'il veut, ou alors entre ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet homme a choisi ce qui est auprès d'Allah. Donc le prophète, il s'assoit sur le minbar et il leur dit ça. Donc quand il a entendu ça, Abu Bakr radiallahu anhu, il a pleuré. Et il a dit: on t'échange, entre guillemets, c'est une expression, on t'échange contre nos pères et nos mères. C'est-à-dire on sacrifie pour toi nos pères et nos mères. C'est-à-dire on t'aime plus que tout, que nos pères et nos mères. Donc les autres sahaba, Abu Sa'id, il dit, ils se sont étonnés, ils n'ont pas compris. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, une personne, c'est-à-dire on a donné le choix à quelqu'un entre la vie d'ici-bas et ce qu'il y a auprès d'Allah, et Abu Bakr il pleure, et il dit au prophète, on t'échange contre nos pères et nos mères. C'est-à-dire quel rapport? Et en fait, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite ils ont compris que c'était lui dont il parlait, c'est lui le serviteur à qui Allah a donné le choix entre la vie d'ici-bas, c'est-à-dire de rester éternel, ou de mourir. Donc Abu Bakr, quand il a compris, ça veut dire que ça y est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mourir. Donc il a pleuré. Et après, pour finir, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: l'homme à qui j'ai le plus confiance dans sa compagnie et dans ses biens, c'est-à-dire celui qui m'a le plus aidé par sa compagnie et par ses biens, c'est Abu Bakr. Et si je devais prendre un Khalil parmi vous, je prendrais Abu Bakr. Khalil, quand tu dis le Habib, c'est quelqu'un que tu aimes. Le Khalil, c'est au-dessus, c'est-à-dire c'est celui que tu aimes le plus. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un vraiment intime. Et il a dit, si je devais prendre un Khalil, j'aurais pris Abu Bakr. Mais il ne l'a pas pris, parce qu'il est le Khalil d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il a dit qu'aucune entrée ne reste ouverte sur la mosquée, si ce n'est l'entrée d'Abu Bakr. Et ça, Allahu a'lam, parce que l'appartement d'Abu Bakr était collé à la mosquée. Donc le prophète a fermé toutes les entrées, sauf celle, c'est-à-dire plus personne ne pouvait y accéder directement, si ce n'est Abu Bakr. Ça c'est dans les deux sahih. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فذكره بنحوه. Et toujours dans le Bukhari, Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, il a expliqué que le prophète صلى الله عليه وسلم, un jour il est sorti dans la maladie qui a précédé sa mort, et il avait entouré sa tête avec une serviette, c'est-à-dire à cause de la souffrance. Et ensuite, il a expliqué le même hadith qu'Abu Sa'id. C'est-à-dire, deux sahaba, dans Sahih Bukhari, ont raconté la même histoire. وَلِي مُسْلِمٍ حَدِيثِ جُنْدُوبٍ أَنَّ هَذِي الْخُطْبَةَ كَانَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِخَمْسٍ. Et dans Sahih Muslim, Jundub, radiallahu anhu, a dit que cette histoire, c'est-à-dire ce discours du prophète, était cinq jours avant sa mort. Comme vous laissez 10 minutes après l'adhan, on va lire et puis on fera l'adhan et on la salat tout de suite. ثم إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كما يموت سائر البشر لها سكرات ثم فارقت روحه جسده ثم ارتقى جسده صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était la même que pour tous les êtres humains. C'est-à-dire il a souffert comme souffrent tous les êtres humains, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que son âme quitte son corps. فعن عائشة رضي الله عنها قالت إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. Donc là, Aïcha radiallahu anha, elle raconte, elle dit, parmi les grands bienfaits d'Allah sur moi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans ma maison. Parce qu'on sait que le prophète, il avait 9 femmes. Et il est mort dans la maison de chacune avec sa maison. Et il est mort dans celle de Aïcha radiallahu anha. Wa fi yaoumi, et dans mon jour, c'est-à-dire le jour où il devait rester avec elle. Et il est mort, c'est-à-dire il est mort alors qu'il était posé sur Aïcha. Il était posé sur elle. Et elle a dit, Allah, il a réuni ma salive et sa salive avant qu'il meure. Donc elle va expliquer. Dakhala alayya Abdurrahmani wa biyadi siwaku wa ana musnidatun Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a dit, son frère Abdurrahman, donc Ibn Abi Bakr, il est rentré chez lui et il avait à sa main le siwak. Donc le siwak, c'est un mot qui s'emploie pour tout objet par lequel on peut se frotter la bouche. C'est pas forcément le bois de harak. Parce qu'il y a dans une autre version dans le Mu'jam de Tabarani, c'est que c'était du bois de dattier. C'était pas du bois de harak. Donc elle l'a quand même appelé siwak. Elle a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le soutenais. فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم فناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه النعم فلينته وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. Donc elle a dit ensuite qu'elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regardait le siwak. Donc elle a compris qu'il le voulait. Donc elle lui a dit, est-ce que tu le veux? Et il a fait un signe de sa tête. Ensuite elle l'a pris et elle l'a mis dans sa bouche et il était un peu dur pour lui parce qu'il était faible. Et elle lui a dit, est-ce que tu veux que je l'adoucisse? Et il a dit oui avec sa tête. Donc c'est là qu'elle l'a pris avec sa salive, c'est-à-dire elle l'a mâché un peu et ensuite elle l'a mis. C'est ça qu'elle veut dire, c'est-à-dire le prophète est mort avec la salive d'Aïcha dans sa bouche. Et ensuite il avait un petit récipient avec de l'eau et il prenait l'eau et il la mettait sur son visage et il disait la ilaha illallah, la mort a des souffrances. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiq al'a. Ensuite il a levé sa main et il a dit avec la plus haute compagnie, c'est-à-dire je pars auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta qubida wa malat yaduhu, akhrajahu al-Bukhari, jusqu'à ce qu'il meure et sa main est tombée, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Wa kana yawmu wafatihi, sallallahu alayhi wa sallam, huwa yawmu l'ithnayn, kama sahha dhalika min hadithay Anasin wa Aishata radiallahu anhuma, wa akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Et aussi le jour de sa mort était un lundi, comme ça a été rapporté par al-Bukhari, selon Anas radiallahu anhu, et selon Aisha radiallahu anha. وفي السنة الحادية عشر من الهجرة باتفاق وفي شهر ربيع الأول. Et aussi sa mort était dans la 11e année de l'Hégire et pendant le mois de Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire au début de la 11e année de l'Hégire. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في السيرة النبوية. يعني هناك تنبيه. يعني تنبيه مهم. أحيانا بعض الناس يشترون سيرة ابن هشام أو يشترون مثلا التاريخ للطبري أو البداية والنهاية ويقرؤونه، يعني يقرؤون مثل هذه الكتب ويعتقدون أن كل ما فيه صحيح وليس الأمر كذلك. يعني الصحيح هو القرآن وهو مثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم، أما كتب السير وكتب المغازي وكتب التاريخ فهذه فيها وفيها، فيها أشياء صحيحة وفيها أشياء ضعيفة، فيها نظر وفيها أشياء مفترى وموضوعة تأتي من قبل أناس يعني افتروا أسانيد أو افتروا قصص. فمثلا إذا اشتريت السيرة النبوية لابن هشام لا تظن أن كل ما فيه صحيح وتقرأ السيرة وتظن أن هذا هو السيرة، إنما مثل ابن هشام هم مؤرخون يعني علماء السير، وعلماء السير لا يتشددون في الرواية كما يتشدد أهل الحديث، لأن هناك فرق بينهما، فرق بين الحديث الذي يجب علينا أن نعتقد معناه وأن نطبقه وبين السيرة التي هي قصص ويعني أيام وتواريخ وغير ذلك. Donc là ici c'est une parole d'Ibn Hisham. Et là, يعني j'attire votre attention sur le fait que des livres comme la Sira d'Ibn Hisham, certes, ça c'est un marja', c'est-à-dire c'est un des livres de base dans la science de la sira, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut savoir que ce genre de livre, comme aussi par exemple le livre de Tabari sur l'histoire, le Tarikh, ou les autres livres d'histoire, il ne faut pas croire que tu l'achètes, tu lis dedans et tout ce qu'il y a dedans il est vrai. Dans les livres d'histoire de ce genre, il y a beaucoup de vrai et il y a beaucoup beaucoup de faux. Il y a du faible et il y a même de l'inventé. Mais donc on va dire, bah pourquoi ils l'ont mis dedans alors? Ils l'ont mis dedans parce que déjà les ulama de l'histoire, c'est-à-dire quand on dit l'histoire, la science de l'histoire, Tarikh, ou alors Siyar, ils n'étaient pas durs dans la transmission des récits comme les gens du hadith. Parce que le hadith, c'est des choses que tu dois croire et que tu dois appliquer. Donc il faut être dur pour différencier l'authentique de ce qui n'est pas authentique. Alors que la Sirah, c'est des histoires. La bataille, elle a eu lieu comme ça, il y avait autant de combattants, elle s'est passée comme ça, c'était à telle date. Donc c'est pas des choses qui sont très importantes. Qu'une bataille, elle ait eu lieu cette année-là, ou un an avant, ou un an après, ça ne change pas grand-chose pour nous dans notre vie de tous les jours. Donc ils n'étaient pas durs. Donc la plupart du temps, leurs livres, les livres d'histoire, leur mission, entre guillemets, leur tâche, c'était de regrouper ce qui se rapporte sur le sujet, sans regarder est-ce que c'est authentique ou si c'est pas authentique. Alors que les livres de hadith, non. Ils prennent, il y a des mesures. Par exemple, Sahih al-Bukhari, il met que du Sahih. Sahih Muslim, il met que du Sahih. Sunan Abi Daoud, il met pas que du Sahih, mais il le dit. Il a expliqué les conditions des hadiths qui sont dedans, au début, etc. etc. Donc ces livres-là, il ne faut pas croire que tout ce qu'il y a dedans, c'est vrai. Eux, ils ont simplement mis ce qui se raconte, tout simplement. Donc on ne va pas lire toute la parole d'Ibn Hisham, parce que ça y est, on a fini, mais il y a sa parole qu'il a ramenée ici. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que la date de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas sûre. C'est pas quelque chose de sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il est mort dans le mois de Rabi' al-Awwal, dans l'année 11. Mais le jour précis, ça, c'est pas quelque chose de sûr. C'est-à-dire, si les historiens ils divergent. Certains ils disent telle date, d'autres ils disent telle date. Tout comme pour sa naissance, d'ailleurs. Sa naissance et sa mort, on ne sait pas quel jour c'était. وكان عمره صلى الله عليه وسلم يوم وفاته 63 سنة كما صح ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كعائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. Donc pour finir, il a dit, quand il est mort صلى الله عليه وسلم, il avait 63 ans, comme l'ont dit Aïcha et Abdullah ibn Abbas et d'autres encore parmi les salaf. نكتفي بهذا إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.